Bonjour, frères et sœurs. Le passage qu'on étudie ce matin, on poursuit dans l'Évangile de Luc, et ça m'a fait penser justement à l'unité, qui est présentement un défi, là, on doit l'avouer, entre les chrétiens, et on doit redoubler d'efforts pour maintenir cette unité-là. Mais le passage qu'on étudie ce matin m'a fait penser à l'unité, mais pas comme un exemple chrétien à suivre, mais c'est en voyant tous les ennemis de Jésus qui se sont unis. Même, j'ai appelé mon message, le titre « Tous unis contre Jésus », malheureusement. Mais ça me fait penser quand même au parallèle de l'unité qu'il y a chez les chrétiens. Il y a peut-être des similitudes, mais c'est quand même très différent. On va y revenir tantôt. Donc, dans le récit de l'Évangile de Luc, ça fait déjà plus d'un an qu'on l'étudie, et on arrive vers la fin du ministère de Jésus dans les dernières étapes. Il est arrivé à Jérusalem, et ça fait une semaine qu'il est à Jérusalem. Il est venu dans l'occasion de la Pâque, et beaucoup de Juifs aussi, non seulement de la Judée, mais de partout dans l'Empire romain, dans les provinces, se sont réunis à Jérusalem pour fêter Pâque. Et le peuple est assemblé, en tout cas, jusqu'à maintenant, le peuple était assemblé à chaque jour pour écouter Jésus avec beaucoup d'attention. Ils étaient émerveillés d'entendre les enseignements de Jésus, au point où ce que les chefs religieux avaient peur d'intervenir contre Jésus parce que Jésus avait l'appui de la foule. Il a pu prêcher, il était entendu. Mais les chefs religieux, pendant ce temps-là, conspiraient contre lui pour le faire mourir. Et c'est finalement l'un des 12, l'un des amis de Jésus, Judas, qui l'a trahi, qui est allé le livrer à ses chefs religieux, qui l'a vendu. Et Jésus a finalement été arrêté. Il a été lié comme un criminel, humilié, maltraité même par les soldats. Donc, il a été battu. Pierre se tenait pas trop loin. On a vu ça il y a 2 semaines avec le récit où on voit Pierre qui suit Jésus de loin, mais il est craintif. Et finalement, malheureusement, comme Jésus l'avait annoncé, il renie son maître 3 fois. Et quand le coq chante, il réalise qu'est-ce qu'il a fait. Il se souvient des paroles de Jésus et il sort en pleurant amèrement. Donc, les différentes scènes que l'on voit montrent que finalement Jésus se retrouve seul, entouré de beaucoup de gens. Mais il est comme seul devant ses adversaires. Pourtant, il persévère. Et au matin, il est conduit devant le Sanhédrin, donc le tribunal le plus haut dans la communauté juive à l'époque, et il est accusé par les juges même qui sont censés déterminer s'il est coupable ou non, mais ce sont eux-mêmes qui l'accusent, essayant de le prendre au piège. Et finalement, il est condamné. Les chefs religieux et toutes les autorités juives se sont concertées et ils ont enfin trouvé le moyen de se débarrasser de Jésus. C'était assez simple, mais c'était de le condamner à mort pour blasphème. Et il avait accusé de toutes sortes de choses, mais il n'arrivait pas à le prouver. Mais ils ont pu enfin démontrer que Jésus a prétendu être fils de Dieu. Non seulement cela, il a confessé devant eux être le Christ, le Messie, annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Jésus a dit lui-même qu'il est le Fils de l'homme qui sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Donc, il va même être en position de juger le monde, incluant eux qui sont en train de le juger. Et il déclare ouvertement qu'il est le Fils de Dieu. Là, pour eux, l'affaire est réglée. Ils ont enfin trouvé le prétexte pour le condamner à mort parce qu'il a, selon eux, blasphémé. Donc, ils se lèvent tous ensemble pour se rendre chez Pilate, qui, à l'époque, est le représentant de Rome, le gouverneur de la région en Judée. Donc, tournez avec moi dans Luc, chapitre 23. Nous allons lire les versets 1 à 25. Luc, chapitre 23. À partir du verset 1. Luc 23, 1. Ils se levèrent tous ensemble et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser en disant, « Nous avons trouvé celui-ci qui incitait notre nation à la révolte et empêchait de payer l'impôt à César. » Et se disait lui-même, « Christ, roi. » Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs? » Et Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable chez cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent, « Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé et jusqu'ici. » Quand Pilate entendit cela, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il relevait finalement de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis quelque temps, il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait lui voir faire quelques miracles. Il l'interrogea assez longuement, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient. Pilate convoqua les principaux sacrificateurs, les chefs et le peuple, et il leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme entraînant le peuple à la révolte. Voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des fautes dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. » À chaque fête, il était obligé de le relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Ce dernier avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur adressa de nouveau la parole avec l'intention de relâcher Jésus. Mais ils criaient, « Crucifie! Crucifie-le! » Et Pilate leur dit pour la troisième fois, « Mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Mais ils insistèrent à grands cris en demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate rendit un arrêt conforme à leur demande. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour une émeute et pour un meurtre, et qu'il réclamait, mais il livra Jésus à leur volonté. Donc, le passage que nous étudions ce matin ouvre par ces mots, « Ils se levèrent tous ensemble. » Je crois que c'est vraiment le point sur lequel Luc a voulu insister. Ils sont ensemble. Sûrement qu'à l'habitude, ils pouvaient avoir des chicanes. On sait même que les Sadducéens, les pharisiens avaient des mésententes souvent, les anciens de la ville, les chefs de synagogue, souverains sacrificateurs. Mais là, ils sont tous unis ensemble. Ils se lèvent en bloc pour aller chez Pilate. Et je crois que Luc a voulu insister dans le passage qu'on voit ici, même s'il y a beaucoup de détails, mais il y a un point qui ressort, c'est que finalement tous les ennemis de Jésus s'unissent ensemble et font bloc contre lui, d'une manière frappante, là. Pourtant, Jésus est seul, il ne menace personne, il ne fait rien de mal, mais il attire la haine, une haine qui peut sembler même irréelle, incompréhensible. Et ils se rendent tous chez Pilate en même temps. Ils auraient pu envoyer seulement un délégué ou deux, mais ils se rendent tous chez Pilate pour montrer qu'ils font front commun. Et le Sanhédrin a déjà rendu son verdict de culpabilité. Selon eux, Jésus est coupable de mort. Mais ils ne peuvent pas, ils ne sont pas autorisés, puisqu'ils sont soumis à Rome. Ils ne sont pas autorisés eux-mêmes à procéder à l'exécution de quelqu'un. Peu importe la personne, ils ne pouvaient pas mettre quelqu'un à mort. C'est pour ça qu'ils se réfèrent finalement à un représentant de Rome, parce que Pilate avait l'autorité de mettre quelqu'un à mort. Et nous savons aussi que Pilate n'allait pas gêner. Si jamais il jugeait que quelqu'un était digne de mort ou vraiment potentiellement nuisible pour la société là, qu'il surveillait, là, il n'allait pas hésiter à mettre quelqu'un à mort. Et d'ailleurs, Luc rapporte dans Luc 13, versets 1 à 3, que des gens sont venus voir Jésus pour lui raconter qu'il y avait beaucoup de Galiléens qui avaient été tués par Pilate. On lit dans Luc 13, 1, « En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. » Bon, c'est une drôle d'expression. Je ne sais pas ce que ça veut dire par là, mais Pilate avait fait mourir beaucoup de Galiléens. Et Jésus leur dit, « Mais pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que les autres Galiléens? » Parce qu'ils ont souffert de la sorte. Donc, la description qu'ils ont faite de la mort de ces Galiléens, là, ça devait être assez graphique, là, mais ils sont morts, mais Jésus parle d'une grande souffrance qu'ils ont connue. Mais Jésus conclut par dire, « Non, ils n'étaient pas plus coupables. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. » Plusieurs écrits de l'époque aussi de Jésus, des historiens ou d'autres qui ont écrit à propos de Pilate, confirment tous que Pilate avait la réputation d'être cruel, inflexible, sans pitié. Ça ne lui dérangeait pas de voir quelqu'un souffrir, sans pitié. Et en plus, il n'aimait pas les Juifs. Il était connu pour cela et il les traitait durement. Mais les Juifs n'ont pas d'autre choix que d'en s'en remettre à lui. Et le motif de mise à mort pour les Juifs, c'était que Jésus avait blasphémé en prétendant être fils de Dieu. Donc, c'était un motif religieux. Et pour ça, pour Pilate, il n'a que faire de ça, lui, des motifs religieux pour condamner quelqu'un. Donc, sachant que ce n'est pas un motif valable, c'est pour ça que, devant Pilate, il l'accuse plutôt de soulever des émeutes, d'empêcher les gens de payer l'impôt à César, donc de faire vraiment du tort à Rome et du tort à la paix publique. Mais on sait que ce sont des accusations totalement fausses qu'ils étaient incapables de prouver. Et tous les témoins qui ont entendu Jésus justement parler des impôts à César l'ont entendu dire qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et Jésus n'a jamais soulevé une révolte. Donc, c'était des accusations fausses. Par-dessus cela, ils ajoutent aussi le fait que Jésus a prétendu être le Christ, le roi. Là-dessus, ils ont raison, par contre. Et ils supposaient que Pilate allait voir en Jésus une menace à son autorité ou une menace à l'autorité de Rome, si Jésus est roi. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, Pilate lui demande, « Es-tu roi des Juifs? » Et Jésus lui répond, « Tu le dis. » C'est une réponse à laquelle on n'est pas habitué en français, mais dans ma compréhension, dans le grec de l'époque, ça voulait dire oui. Et on a plusieurs confirmations de cela dans d'autres passages dans les évangiles, où lorsque Jésus dit, « Tu le dis » ou « Vous le dites », ça veut dire, oui, je confirme que ce que vous dites est vrai, ça sort de votre bouche, mais c'est vrai. D'ailleurs, dans Jean, il dit, tu le dis, je le suis. Et nous savons aussi que l'entretien entre Jésus et Pilate a été beaucoup plus long que la simple question que l'on lit dans Luc, lorsqu'on lit le rapport fait dans les autres évangiles. Mais à la fin de l'entretien, il semble que Pilate a compris que ce que Jésus prétend être, ce n'est pas un roi d'un royaume sur cette terre. C'est un roi spirituel, un guide spirituel, le maître, donc un roi dans le domaine religieux. Donc, Pilate ne voit pas de menace pour Rome et il leur dit, « Il n'y a rien de condamnable en cet homme. » Finalement, même le fait que Jésus prétend être roi, ce n'est pas condamnable selon la loi romaine. « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » C'est toute une déclaration. 2000 ans plus tard, on la lit encore, cette déclaration-là. Je ne pense pas que Pilate savait que cette déclaration, sa confession de l'innocence de Jésus allait passer à l'histoire. Mais ça prenait un païen qui ne craignait pas Dieu pour voir de toute évidence que Jésus était juste et qu'il n'avait rien fait pour mériter la mort, même pas d'être en comparution devant lui. Il sait que Jésus est innocent. Pourtant, on voit son cœur. Hein? Il dit, je vais le relâcher, mais je vais le faire châtier. Il sait que Jésus est juste, mais pourtant, il va le faire battre avant de le relâcher. Et même, comme on le voit un peu plus loin, il va accepter qu'il soit condamné à mort. Ça s'ajoute finalement à la culpabilité de Pilate. Il a avoué qu'il sait que Jésus est innocent, et pourtant, il le fait battre. Il le fait fouetter, flageller, et en plus, il va le livrer pour qu'il soit crucifié. Et même si on lit dans Matthieu que Pilate fait le geste de s'en laver les mains de ce dossier-là, il se lave littéralement les mains pour montrer « Je suis pur du sang de cet innocent, je ne suis pas responsable de sa mort », ça n'enlève pas sa responsabilité. Il a autorisé les Juifs à le mettre à mort. Et en tant que responsable à l'époque, il aurait dû finalement intervenir. Donc, il s'en lave les mains. Je ne sais pas s'il a respecté la règle des 20 secondes. Ça sera à vérifier. Et par sa propre confession, finalement, Pilate s'est rendu coupable devant Dieu, qui va le juger à la fin des temps. Pour le moment, Pilate tient bon dans son verdict. Alors, les Juifs insistent à nouveau. Ils disent, ils soulèvent le peuple dans toute la Judée. Donc, à l'époque, ce qu'ils appelaient la Judée, c'est la Palestine aujourd'hui. Ça inclut la Galilée. Donc, il dit, à partir de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Et Pilate, lui, n'est pas préoccupé par cela, que Jésus est en train de révolutionner le système religieux par son enseignement. Sauf que quand il entend le mot « Galilée », oh, ça attire son attention. Ça, c'est un détail qui n'est pas négligeable. Est-ce qu'il est galiléen? Et quand il apprend finalement que Jésus vient de Nazareth, qu'il est galiléen, enfin, il a trouvé un moyen de se débarrasser de ce dossier-là ennuyeux. Parce que c'est Hérode qui est responsable de ce territoire-là. Et justement, Hérode est en ville. Hérode est à Jérusalem. Donc, il dit, conduisez cet homme à Hérode. Et il l'envoie sur le champ. Donc, Jésus se trouve finalement devant Hérode. Et Hérode reçoit Jésus en comparution. On ne peut pas s'attendre à ce que Jésus va recevoir un procès équitable. Luc nous a déjà parlé d'Hérode dans son évangile. C'est lui qui a fait emprisonner Jean-Baptiste sans raison et qui finalement l'a fait décapiter. Il n'a pas hésité à tuer un prophète de Dieu. Et il le savait parce que même par la suite, il avait peur lorsqu'il a entendu que Jésus faisait des miracles. Il se demandait si ce n'était pas Jean-Baptiste qui était revenu à la vie. Donc, on n'a pas l'impression que Hérode est un homme de justice. Au début, lorsqu'il voit arriver Jésus, il est très heureux de le voir. D'ailleurs, il voulait le voir depuis un certain temps, que Luc nous dit. Et déjà au chapitre 9, verset 9, Luc 9, 9, il est dit qu'il cherchait à voir Jésus. Là, enfin, ce jour-là, il pouvait l'avoir devant lui en chair et en os. Et il espérait lui voir faire des miracles. Donc, il espérait peut-être, il avait espéré le croiser dans la ville et l'assister à un miracle. Mais là, il l'a devant lui. Il va pouvoir avoir comme un spectacle de magie privé. Donc, il est tout heureux de cela. Et il interroge Jésus. Mais les Juifs sont présents et ils l'accusent. Ils sont enflammés. Ils sont en colère. Là. Ils l'accusent avec véhémence, le texte dit. Donc, Hérode n'a pas le choix de mettre son désir d'avoir un spectacle de magie de côté. Là, et il interroge Jésus sur les accusations qu'il entend. Mais, étonnamment, Jésus ne répond rien. Jésus ne cherche même pas à se défendre. Devant Hérode, Jésus ne dit rien. Donc là, après un certain temps, l'intérêt d'Hérode se dissipe. Il est tanné. Là. Et de toute façon, il ne se préoccupe pas du tout de connaître la vérité. Il s'en fout de savoir si cet homme-là est juste ou non devant lui. Et il finit par se moquer de Jésus. Donc, on en a la preuve. Et ses soldats avec lui. Et il le méprise. Okay. Il l'humilie. Il y a une façon de l'humilier qui est très visuelle, c'est qu'il lui met un habit éclatant, comme un roi pourrait porter une cape, pour se moquer de lui, parce qu'il a prétendu être roi. Et il le renvoie à Pilate. Je crois que si Jésus n'a rien dit devant Hérode, c'est sûrement parce qu'il a vu son cœur, il a vu qu'Hérode, de toute façon, n'avait qu'à faire de la vérité, mais aussi parce que Jésus savait qu'il devait retourner devant Pilate. Il devait éventuellement retourner devant son peuple, devant les Juifs, et être condamné par eux. Il devait être mis à mort par eux et pas maintenu en prison par Hérode ou un autre sort que Hérode aurait pu lui réserver. C'était sa mission d'être mis à mort par son propre peuple. Et Luc nous donne un détail intéressant. Il dit que Pilate et Hérode étaient des ennemis. Donc, ils ne s'aimaient pas. Pourquoi? On ne sait pas. Mais c'est pas un fait extraordinaire que deux personnes en autorité dans l'Empire romain soient en compétition, peut-être au niveau de leur carrière, au niveau de leur autorité ou de leur territoire. Peut-être que l'un avait fait des choses que l'autre n'avait pas aimées. D'ailleurs, on sait que Pilate avait fait tuer des Galiléens qui étaient sur le territoire d'Hérode. Ça n'a sûrement pas plu à Hérode, ça. Quoi qu'il en soit, ils étaient des ennemis. Mais ce jour-là, ils sont devenus amis. Je ne sais pas pourquoi ils sont devenus amis, mais il semble qu'ils ont dû communiquer ce jour-là. Ils se sont retrouvés finalement dans la même situation tous les deux. Le même problème, pris avec un homme qui n'a pas commis de crime, mais dont les Juifs veulent se débarrasser. Et puis, il est comme avec une patate chaude là, qu'il se renvoie. Mais le fait qu'ils vivent la même chose en même temps les a, en quelque sorte, unis. Et à tour de rôle, ils ont reconnu l'honneur de l'autre de pouvoir présider à un procès. Pilate a reconnu l'autorité d'Hérode en lui envoyant Jésus, et Hérode, à son tour, a reconnu l'autorité de Pilate en lui retournant. Donc, ils ont eu de l'égard l'un pour l'autre. Finalement, ils sont devenus amis, mais des amis pour le mal. Et on sait, selon la Bible, qu'une union qui est pour le mal est finalement une vanité. Ça ne dure pas et ça ne vaut rien dans le temps. Les hommes, de manière générale, ont tendance à s'unir avec ceux qui sont d'accord avec eux. C'est une réaction normale. Si on trouve des gens qui pensent comme nous, qui vivent la même chose que nous, qui ont un arrière-plan peut-être semblable, mais surtout qui sont d'accord avec nous, là, on a tendance à vouloir s'unir avec eux. Dans toutes les sphères de la société, ça fonctionne comme ça. Mais les chrétiens, malheureusement, peuvent aussi se laisser aller simplement à cette tendance naturelle de vouloir s'associer, s'unir avec des gens qui pensent comme eux, qui se ressemblent. Ça peut être jusqu'à un certain point bon, mais selon Jésus, il y a un lien qui est beaucoup plus fort que simplement des choses qu'on a en commun ou un point de vue similaire. C'est le lien de l'unité de l'esprit. Ça, c'est un lien réel qui n'est pas une vanité, qui provoque un amour réel entre les frères, une unité qui est réelle, une amitié qui est profonde, une fidélité et un lien qui est durable, qui n'est pas une vanité. On va y revenir plus tard aussi. Maintenant, c'est comme si la caméra se tourne à nouveau sur Pilate, et Pilate reçoit à nouveau Jésus. Et là, il convoque tout le Sanhédrin. Mais en plus, il convoque aussi le peuple. Donc, c'est pas seulement toute la foule qui était là précédemment avec lui, qui est composée des anciens, des sacrificateurs, des scribes. Il invite en plus le peuple nombreux qui était là à Jérusalem ce jour-là. Pourquoi? Il semble qu'il veut faire un communiqué public et dire devant toute la foule que Jésus est innocent des accusations que leur chef religieux porte contre lui. Mais c'est risqué parce qu'il ose finalement dénoncer la mauvaise foi des chefs religieux devant le peuple. Eux sont venus l'accuser et Pilate dit « Il n'est coupable de rien, il ne mérite pas la peine de mort. » Et même, il dit au peuple, même Hérode l'a interrogé et ne l'a retourné. Donc, même Hérode considère que Jésus n'a rien fait pour mériter la mort, qu'il est innocent. Donc, il s'adresse à toute la foule et au Sanhédrin, je le relâche. Et puisque, sûrement Pilate réfléchissait, puisque Jésus a l'appui du peuple jusqu'à maintenant, et que les chefs religieux ont eu peur de la foule jusqu'à maintenant et qu'ils sont jaloux de lui, bien, finalement, ça devrait passer. Et ça tombe bien parce que le jour de Pâques, c'était l'une des grandes fêtes dans l'année, et Pilate avait l'habitude de relâcher un prisonnier juif lors d'une grande fête. Donc, il propose de relâcher Jésus après l'avoir fait châtier, donc pour calmer les ardeurs de ceux qui ont de la haine contre lui, c'est-à-dire le faire battre, le faire fouetter. C'est quand même un traitement dur, là, mais il décide de le relâcher. Comme ça, tout le monde sera content. Mais c'est toute une injustice, non? C'est comme si Pilate veut, en faisant battre Jésus, en l'humiliant devant tous, là, en le flagellant, il veut commettre ce mal pour éviter un plus grand mal de le mettre à mort. C'est comme le dicton qui dit de « la fin justifie les moyens ». Donc, si la fin est bonne, ça justifie des moyens qui sont peut-être mauvais, ça les excuse, les moyens. Mais c'est une manière du monde de réfléchir, une manière païenne. Mais c'est toute une injustice. Il reconnaît devant tous qu'il est innocent et pourtant, il veut le faire battre. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Ce n'est pas satisfaisant que Jésus soit battu. Les chefs religieux veulent sa mort et on se rend compte que finalement, ils ont monté la foule et la foule appuient leur chef religieux. Donc, ils ne prennent pas parti pour Pilate et le fait que Pilate dénonce leur mauvaise foi, ça ne fonctionne pas. La foule, tout le peuple se tourne du même côté que les chefs religieux, que le Sanhédrin, et réclame la mort de Jésus. Et même, puisque un prisonnier doit être relâché, il réclame la libération de Barabbas, un criminel notoire qui avait provoqué une émeute à Jérusalem et même un meurtre. Et il avait eu son procès, il avait été reconnu coupable et il purgeait sa peine en prison. Donc ça avait été prouvé qu'il avait soulevé une révolte et même commis un meurtre. Et c'est lui que le peuple réclame pour qu'il soit libéré. Ils veulent que Jésus, innocent, soit condamné. Quel grand péché qu'ils ont commis ce jour-là. Et Pierre leur rappellera. C'est ce qui va percer leur cœur lorsqu'ils vont entendre les paroles de Pierre le jour de la Pentecôte, 50 jours plus tard. Et le Saint-Esprit va utiliser cela, ce rappel de ce grand péché qu'ils ont commis, pour toucher leur cœur et les pousser à la repentance. Ben, du moins, plusieurs d'entre eux, pas tous. On lit dans Actes 3, 13 à 15, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous, vous avez renié le saint et le juste. Vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie. » Jésus est le prince de la vie. Il est la vie. Il est le Créateur. Et son propre peuple n'a pas voulu de lui. Il a fait mourir. Là, Pilate, lui, ça ne se peut pas. Il insiste à nouveau. Je vais vous le relâcher, mais je vais le faire battre. Et il crie tous. Là, la foule est vraiment soulevée. Crucifie-le! Crucifie-le! Donc, ce qu'il demande, ce n'est pas seulement que Jésus soit décapité ou qu'il soit mis à mort par une épée, c'est qu'il soit torturé, humilié, cloué vivant sur une croix pour que, par les souffrances et la perte de son sang, il finisse par en mourir. Nu, cloué sur une croix, vraiment un acte de torture cruel, et c'est ce que tout le peuple réclame. C'est horrible. Et Pilate leur rappelle qu'il est innocent et qu'en un sens, il représente même Hérode et Rome là, qui ont prononcé qu'il est innocent. Mais il crie encore plus fort. Finalement, Pilate est acculé au pied du mur et il accepte. Et il rend un jugement conforme à leur demande. Donc, le jugement de la cour ce jour-là, ça a été Jésus coupable et condamné à mourir. C'est tout un juge. Finalement, ceux qui ont décidé, ce n'est pas le juge, ce sont les accusateurs de Jésus. Et ils relâchent Barabbas, un criminel. Et Luc, c'est bon l'expression qu'il utilise, « Il livra Jésus à leur volonté. » Finalement, on voit ici que tous sont unis contre Jésus. Pilate, Hérode, qui sont devenus des amis, et donc tout Rome, les soldats, les serviteurs, et même puisque Pilate a fini par accepter leur demande, ils sont même unis avec le peuple juif, avec les chefs religieux, avec tout le peuple. Finalement, ils sont tous contre Jésus à ce moment-là pour qu'il meure. Tous ensemble, cette grande multitude. Pourtant, on croirait naturellement que lorsque la majorité de la population a une même opinion, a une même pensée, qu'ils ont forcément raison. Mais ici, on voit que c'est pas toujours le cas. Et Jésus était évidemment innocent et c'est la multitude, c'est même presque l'unanimité qui avait tort ce jour-là et qui commettait ensemble ce grand mal. C'est un fait étonnant que la Bible nous révèle que lorsque tous étaient unis contre Jésus, en réalité, ils étaient en train d'accomplir le plan de Dieu. Dieu avait permis cette injustice. Tout se passait selon sa volonté. Ça n'enlève rien à leur culpabilité. Et César va payer cher là, d'avoir confessé que Jésus était innocent et de l'avoir quand même condamné à mourir. Et tout le peuple aussi a vu sa culpabilité plus tard. Mais tout s'est passé selon la volonté de Dieu. C'est ce qui est étonnant. Et la Bible ne gêne pas pour le dire. Pilate ne savait pas, mais en livrant Jésus à ses bourreaux, il accomplissait la prophétie d'Ésaïe 53, où Ésaïe a dit que le Messie qui allait venir allait être livré pour nos péchés, livré en sacrifice. Et d'abord, les Juifs l'ont livré aux Romains pour qu'il soit jugé, et ensuite on voit Pilate qui le livre aux Juifs pour qu'il soit mis à mort. Mais tout cela, ça avait été prophétisé. Les Juifs eux-mêmes ne savaient pas, mais ils étaient en train d'accomplir les prophéties concernant la mort du serviteur de l'Éternel, le Messie. Il y a plusieurs prophéties qui en parlent. C'est des passages de l'Ancien Testament qu'ils connaissaient très bien et qu'ils récitaient souvent. Et ils ne se rendaient pas compte qu'eux-mêmes étaient en train de mettre à mort le serviteur de l'Éternel. C'est ça que Paul va déclarer plus tard dans Actes 13. Les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qui sont lues à chaque sabbat. Ils les ont accomplies en le jugeant. Sans trouver aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Ils accomplirent ainsi tout ce qui est écrit à propos de lui. Pierre aussi va le dire clairement dans une prière lorsqu'il s'adresse à Dieu. Il va dire clairement que même l'union des Juifs avec les Romains ce jour-là, tout cela s'est fait selon la volonté de Dieu. Dans Actes 4, 26, les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués contre le Seigneur, contre son oint, donc contre le Christ. Car en vérité, contre ton saint serviteur, Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Donc Pierre reconnaissait que toute la souffrance que Jésus avait vécue et la souffrance que ses disciples par la suite allaient vivre, tout cela accomplissait le plan de Dieu, ce que la main et le conseil de l'Éternel avaient déterminé d'avance. C'est rassurant de savoir que Dieu est au contrôle des événements. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis cette grande injustice envers son propre Fils? Parfois, les gens ont de la difficulté à comprendre ça. Dieu le Père n'est pas censé aimer Dieu le Fils. Pourquoi il l'a livré à être traité comme un vulgaire criminel, à subir un procès truqué et à être mis à mort par la torture? Pourquoi il a fait cela? La Bible le dit clairement et à multiples reprises. Pour nous, par amour pour nous. C'est Dieu le Fils qui est venu mourir sur terre à notre place. Il est venu subir le châtiment que nous méritions. Nous méritons d'être flagellés, battus et mis à mort. Et Jésus a porté tout ça à notre place. Le Créateur est venu sur terre mourir en sacrifice. Il est venu s'offrir en sacrifice pour ses créatures. Finalement, c'est Dieu lui-même qui est mort pour sa créature. Et le passage d'aujourd'hui l'illustre d'une manière frappante. Tous autour de Jésus sont coupables, ont tous péché, et Jésus meurt à cause de leur péché. Et c'est une illustration qui représente finalement le mal dans le monde entier. Il y a une chose qui unit tous les hommes sur la terre, et finalement nous sommes unis avec tous ceux qui ont mis à mort Jésus. C'est que tous les hommes ont péché. Peu importe de quelle nationalité nous sommes, peu importe de quel rang social, de quel sexe, peu importe si nous avons un passé religieux ou non, nous avons tous péché, et en cela, nous sommes tous unis. Et nous méritons tous la condamnation de Dieu. Mais tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus, qui mettent leur confiance et qui croient que Jésus est venu mourir pour eux, et tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus, qui croient en lui et qui le suivent, sont lavés de leurs péchés et ils obtiennent la vie éternelle. Donc finalement, la mort de Jésus, aussi injuste qu'elle était, a servi à nous obtenir le cadeau le plus grand qui soit, la vie éternelle. En conclusion, notre gouvernement nous répète souvent ces temps-ci que nous sommes en guerre contre le coronavirus, et c'est vrai. Et nous devons avouer que les autorités font un bon travail maintenant. Et c'est un combat que nous devrons livrer ensemble pour la survie de plusieurs, pour que cette menace soit enrayée. Et certainement qu'en tant que chrétiens, nous devons faire notre part. Nous devons être même des citoyens exemplaires. Respecter les autorités en place et respecter les règles. Mais les chrétiens, sans négliger ce combat contre le virus, nous avons un autre combat à livrer qui est encore plus important. Donc, nous ne voulons pas négliger ce combat-là qui touche tout le monde presque sur la planète, Mais nous avons un combat qui est encore plus important en tant que chrétien, c'est le combat de la foi. Parce que c'est pas seulement notre corps qui est à risque, qui est en jeu ici, c'est la survie de notre âme pour l'éternité. Celui qui persévère dans la foi, même dans les temps difficiles, surtout dans les temps difficiles, et celui qui persévère, c'est celui qui persévère à obéir au commandement de Jésus. Et comment on peut résumer tout le commandement de Jésus? Qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est de nous aimer les uns les autres. Il dit dans Jean 15, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est pour ça qu'ici, l'enjeu, l'honneur de la guerre pour nous, c'est de maintenir l'unité entre chrétiens. La communion fraternelle est essentielle, d'utiliser tous les moyens qu'on a pour communiquer, mais surtout pour rester liés dans la prière. Et ce n'est pas un lien qui est seulement virtuel, la prière, c'est réel. Nous sommes liés en esprit, et lorsque nous prions pour des frères, le Saint-Esprit nous garde unis. Mais pour cela, il faut persévérer. Donc, c'est le combat de l'unité de l'esprit. Et pour cela, je vous invite à tourner dans Éphésiens, chapitre 2. La lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 14. Éphésiens 2, 14. C'est lui, notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a, dans sa chair, annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix. Et pour réconcilier avec Dieu tous deux dans un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns les autres accès au Père dans un même esprit. C'est le lien de l'esprit qui est si précieux pour les chrétiens et qui peut maintenir notre unité même lorsque nous sommes distancés. Au chapitre 4, toujours dans Éphésiens, Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc, tous les chrétiens ont reçu une vocation. En toute humilité, avec douceur, avec patience, suivant le modèle de Jésus, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et au verset 11, toujours dans le chapitre 4, verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous, pour chacun des chrétiens, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Donc, finalement, on est édifié pour ressembler à Jésus. Et le récit d'aujourd'hui montre la persévérance de Jésus à travers toute cette haine qu'il a reçue, cette humiliation, ces fausses accusations, devant tous ses ennemis rassemblés contre lui. Et de voir Jésus persévérer pour nous, c'est le meilleur des encouragements. Un encouragement à imiter notre Seigneur. Même devant Pilate, il n'a pas eu honte de confesser qu'il est le roi. Lorsque tous semblent s'unir contre les chrétiens, ça arrive, et c'est arrivé souvent dans l'histoire, depuis 2000 ans dans l'histoire de l'Église, ça risque encore d'arriver aujourd'hui, que de la haine soit soulevée et que des gens s'unissent contre les chrétiens. Mais même lorsque ça arrive, on ne doit pas s'en étonner, mais nous devons rester fidèles au Seigneur. Comme Jésus, ne pas chercher à nous faire justice nous-mêmes, à crier dans les médias que nous sommes des victimes. Ou savoir quand parler, quand se taire aussi. Donc, c'est extrêmement important dans ces jours de demander la sagesse de Dieu. Savoir comment agir, comment réagir. et persévérant comme Jésus jusqu'à la fin. Peut-être que vous vous êtes écarté du Seigneur Jésus ces dernières années, ces derniers jours. Mais il n'est jamais trop tard, sauf quand l'heure de la mort est arrivée, ou si le Seigneur Jésus revient. Mais présentement, il n'est pas trop tard. C'est le bon temps pour se repentir. Repentez-vous, reconsacrez-vous au Seigneur. C'est le bon moment pour vous remettre dans le droit chemin, recommencer à appliquer dans vos vies avec sérieux le commandement « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Jésus a donné sa vie pour nous. Qu'est-ce que c'est que de consacrer une partie de notre temps, de notre énergie, de nos ressources pour nos frères? C'est peu de choses en comparaison de tout ce que Jésus a sacrifié pour nous. Et concluons par 1 Timothée 6, où Paul encourage Timothée, à partir du verset 12, il lui dit « Combat, le bon combat de la foi, c'est là le combat. » Oui, il y a toutes sortes de combats, on peut combattre la famine, la peste, la guerre, le virus, mais le combat le plus important pour le chrétien, c'est le combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, finalement, Timothée, lorsqu'il s'est converti, qu'il a été baptisé, il a confessé devant un grand nombre de témoins qu'il croyait en Jésus, qu'il lui donnait sa vie. Et Paul lui rappelle cela. « Je te le recommande devant Dieu, qui donne la vie à tous les êtres, et devant le Christ Jésus, qui a lui-même rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce Pilate. » Qu'est-ce que Jésus a confessé devant Pilate? Entre autres, qu'il est le roi. Il n'a pas eu honte de cela. Garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité. Il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen.